cette émission du 7 juillet 2023 de ma web TV anthropologique sur laquelle je vous donne de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Dans le cadre de la série Covid non censurée, nous allons aborder aujourd'hui la question du fiasco des données et des modélisations selon les termes mêmes des meilleurs experts. De quoi s'agit-il ? Vous serez d'accord que lorsque nous cherchons à évaluer une problématique quelle qu'elle soit, nous avons besoin de données fiables et de traitement des données, c'est-à-dire d'indicateurs. La météo nous donne chaque jour les températures de la journée et les prévisions pour les jours qui suivent. Les économistes évaluent le taux d'inflation, le taux de chômage et d'autres indicateurs. Un médecin va tester vos variables biologiques pour pouvoir établir un diagnostic. Et donc, disposer de données fiables est un préalable essentiel à pouvoir comprendre de manière juste une situation et prendre des décisions éclairées. Or, le problème que nous avons en Occident aujourd'hui est que la population est systématiquement victime de désinformation de la part de ses autorités. L'excellente journaliste économique Mireille Zaki, par exemple, vient de publier un livre « Désinformation économique » où elle montre comment les autorités utilisent des stratégies marketing pour enjoliver les chiffres officiels. Par exemple, on exclut certaines catégories de chômeurs des statistiques pour pouvoir dire « regardez les bons résultats que nous avons obtenus ». Or, que nous a-t-on dit au cours des 3 ans écoulés en termes de données et d'indicateurs ? D'abord, nous nous souvenons que nous avons été exposés de manière répétée à des modélisations terrifiantes. On nous annonçait des centaines ou des millions de morts si nous n'acceptions pas d'être confinés, de porter des masques, d'avoir un pass sanitaire. En plus de ça, nous avons été exposés à des décomptes, par exemple quotidiens, au début de l'épidémie, où Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, venait sur les plateaux télévisés expliquer « il y a 547 nouveaux décès aujourd'hui, telle barre a été franchie ». Et toutes les personnes qui contestaient ces données, ou en tout cas cherchaient à les mettre en perspective, se voyaient taxées de covido-sceptiques ou de rassuristes, comme Laurent Toubiana. Et donc, si on ne croyait pas la narration officielle, nous étions taxés d'ennemis de la science. Maintenant, qu'en est-il réellement ? En ce qui concerne les fameuses modélisations, vous voyez, le grand quotidien britannique The Telegraph pose la question de manière assez franche, mais est-ce que ce modèle de Neil Ferguson ne serait pas l'erreur la plus dévastatrice de tous les temps ? Pourquoi ? Parce que cela fait 20 ans que ce monsieur se trompe systématiquement sur tout. Regardez ses prédictions passées. En 2001, la fièvre aphteuse, Neil Ferguson a prédit jusqu'à 150 000 morts, il y en a eu moins de 200. En 2002, vache folle, il a prédit jusqu'à 50 000 morts, il y en a eu 177. En 2005, grippe aviaire, il a prédit qu'il pourrait y avoir jusqu'à 150 millions de morts à l'échelle mondiale, il y en a eu 282. Et puis 2009, la grippe porcine, 65 000 morts en Angleterre, il y en aura eu en total 457. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'un monsieur qui se trompe systématiquement est celui vers lequel on se tourne pour essayer de comprendre ce qui se passe ? Sachant qu'il utilise un vieux code informatique qui date de plus de 13 ans et dont Vincent Passevent, mathématicien chercheur aux universités, nous a informé qu'il contient 930 variables, paramètres d'entrée, ce qui rend toute utilisation impossible. Il est impossible avec ce modèle de prédire quoi que ce soit qui tienne la route. Il n'y a aucune science là-dedans. En ce qui concerne les chiffres qui ont été donnés, le nombre de morts, le nombre d'hospitalisés à cause du Covid, il y a eu une confusion d'emblée monumentale parce qu'on n'a pas distingué les morts ou les hospitalisés du Covid, les gens qui étaient à l'hôpital ou décédés à cause de la maladie, des personnes qui étaient à l'hôpital pour d'autres raisons mais avec un test positif et même asymptomatique, ou qui étaient décédés d'autres causes mais en ayant le virus, sans qu'il soit la cause principale. Et ce problème a été généralisé, il dépend en réalité des instructions de l'OMS, qui dans un document en avril 2020 explique comment il faut procéder. Et par exemple, sur la télévision suisse alémanique, le 7 janvier 2022, le président de la Suisse d'alors, Ignazio Cassis, qui est également médecin, a répondu « Oui, c'est vrai, on compte aussi les accidentés de la route, les personnes qui se suicident ou qui meurent d'un cancer en phase terminale, parce que c'est comme ça que l'OMS nous dit de faire. » Mais évidemment que ça brouille complètement les données et leur lisibilité, sachant de surcroît qu'il y a eu un ensemble d'incitatifs. Par exemple, les hôpitaux qui touchaient plus d'argent selon le nombre de patients décédés du Covid, ou des médecins qui étaient plus remboursés si le patient qu'ils avaient soigné était mort du Covid. Et ici, on voit par exemple aux États-Unis, l'Agence fédérale de gestion des urgences, la FEMA, qui proposait jusqu'à 6 500 $ aux familles endeuillées si leurs proches étaient morts du Covid. Il n'y avait pas besoin de confirmation, il suffisait de mettre sur le certificat d'essai mort du Covid, et on peut comprendre, sans mauvaise intention malhonnête, mais que des soignants disent, face à des familles endeuillées, devant enterrer leurs proches, « Mais écoutez, vous pouvez avoir une aide si vous êtes d'accord qu'on le déclare comme mort du Covid », mais évidemment que ça brouille à nouveau complètement les données. Dans l'émission précédente sur les hospitalisations, nous avons vu que les données affirmant une surcharge des hôpitaux avait été systématiquement présentée de manière fausse. Et sur cette question, combien de patients estampillés Covid étaient réellement à l'hôpital à cause du Covid et pas juste avec un test PCR positif, je vous laisse écouter un court extrait d'une intervention du directeur général des hôpitaux universitaires de Genève sur la chaîne de télévision locale en réponse à cette question.
Est-ce que vous avez un nombre précis de personnes qui viennent pour tout à fait autre chose? Là, vous parlez des personnes âgées qui sont fragilisées, d'accord, mais les personnes qui ne viennent que pour autre chose?
On a quelques-uns, mais c'est très marginal.
Et il a répété 5 ou 6 fois cette phrase pendant l'émission, c'est complètement marginal, c'est quelques cas par-ci par-là, mais nous, nous sommes au front, c'est très compliqué, on est en janvier 2022. Donc il n'y a plus de vague épidémique d'aucune sorte dans la réalité à ce moment-là. Et vous voyez qu'à l'inverse de ce que dit ce monsieur, mais tous les responsables d'hôpitaux, les études sérieuses, celles-ci faites à New York, révèlent qu'au moins 50% des soi-disant patients Covid étaient là pour d'autres raisons et n'étaient pas mis en danger à cause du Covid. Et ça, évidemment que ça fausse complètement les statistiques. Sur la mortalité, on nous annonce 450 morts un jour, c'est évidemment très triste. Mais déjà, combien d'entre eux sont réellement morts du Covid ou avec le Covid? Probablement la moitié. Et il faut savoir qu'en France, il y a de 1400 à 1900 décès quotidiens. Et en période de grippe, c'est particulièrement élevé et souvent il y a plus que 450 morts par jour de la grippe quand il y a la grippe. Donc quand on vient nous dire qu'il y a 400 morts, ça ne veut rien dire si on n'a pas ce référentiel de comparaison. Alors de nouveau, tout ça on le savait très tôt. Regardez, un article, l'interview d'Arnaud Fontanet, un des membres du conseil scientifique en France, responsable à l'Institut Pasteur où il utilise les modélisations de Neil Ferguson, et qui, au mois de février 2020, admet l'épidémie de Covid-19 fait moins de morts que la grippe, mais ça suscite beaucoup d'inquiétudes. Et quand le journaliste lui demande « Mais comment faire la différence avec une forte grippe ?», il dit « Il n'y a pas de différence entre les formes sévères du Covid et la forte grippe, et comme pour la grippe, il existe fréquemment des formes bénignes. » Donc nous savions d'emblée que nous n'étions pas confrontés à quelque chose de terriblement dangereux, et il a fallu gonfler les statistiques pour créer cette illusion d'optique. Et donc la question qui se pose, c'est la manière dont on nous a présenté l'information a-t-elle été honnête? Alors je cite souvent John Ioannidis, qui est l'épidémiologiste le plus cité au monde dans la littérature, qui fait référence pour l'OMS sur ces questions. Et vous voyez qu'au mois de juillet 2023, il a averti « Nous pourrions faire face à un fiasco des données sans précédent, étant donné la manière dont les choses sont calculées ». Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et ça continue aujourd'hui. Par exemple, Laurent Toubiana, en France, a déposé une pétition parce qu'il n'arrivait pas à obtenir le statut vaccinal des personnes décédées en France. Et comme il semble qu'on observait une surmortalité anormale concomitante aux campagnes de vaccination, il voulait pouvoir avoir les données pour faire des appariements, ce qu'on appelle techniquement, c'est-à-dire voir si, à caractéristiques égales, on meurt plus de certaines maladies selon qu'on est injecté ou non. et les autorités françaises n'ont jamais donné ces informations. Maintenant, la transparence, c'est la base de la démarche scientifique et la base de la démocratie également. Petit rappel, il y a des considérations éthiques dans les politiques de santé publique face à une épidémie respiratoire. Et notamment, des informations seront inévitablement incertaines, mais vous voyez, il est explicitement commandé que cette incertitude doit être communiquée de façon claire et non alarmiste. Or, tout ce que nous venons de voir, c'est que la confusion a été générée partout, et je rappelle qu'on saurait très bien faire cette analyse de qui est mort du Covid et qui est mort avec le Covid, de qui est hospitalisé pour le Covid. Donc c'est pas qu'on ne sait pas le faire, c'est que ça n'a pas été fait. Et quant au côté alarmiste, à l'inverse, des scientifiques engagés par les gouvernements dans différents pays, notamment en Grande-Bretagne, ont admis qu'on avait exigé d'eux qu'ils produisent les narrations les plus paniquantes possibles pour inquiéter la population. Et qu'il y avait eu quelque chose de totalitaire. Même chose en Allemagne, révélation, février 2021, le ministère de l'Intérieur allemand a commandé une étude pour créer la panique et faire accepter le confinement. Est-ce que c'est conforme avec les directives éthiques de l'OMS ? Et à tel point qu'en Angleterre, les fameuses lockdown files, donc des échanges de SMS entre le ministre de la Santé et différents acteurs qui ont été rendus publics, ont même montré qu'à un moment donné, le ministre britannique de la Santé s'est inquiété que le Brexit commençait à attirer plus l'attention que l'épidémie et a posé la question « Quand est-ce que nous relâchons le nouveau variant pour être sûr que la population ait peur ?» Et donc, le Télégraphe a pris position en disant « Ce ministre devrait être arrêté pour inconduite grave dans ses responsabilités publiques. » Ça a été le cas dans tous nos pays. Et donc la question, est-ce que ça pose question sur le plan démocratique ou non ? Je recommande pour terminer aux personnes qui souhaiteraient en savoir plus sur la réalité des données à partir des chiffres officiels, ces deux références à mon sens, les meilleurs, le livre bien sûr du statisticien Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, qui est un succès de librairie depuis des mois et des mois, et le remarquable livre, je l'ai préfacé, je n'ai aucun intérêt économique à la chose, de Zeb Riocher, qui est docteur en sciences, vous voyez, Covid-19, guerre ouverte contre les peuples, il vient de sortir, il couvre toute la réalité des données qui nous ont été dites par contraste avec ce qu'on peut en analyser de manière honnête, et croyez-moi, c'est un ouvrage qui vaut le détour. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à soutenir mon effort pour que je puisse vous soutenir avec de l'information indépendante et honnête. Vous trouverez toutes les références nécessaires sur le site jdmichel.tv. Merci, à demain.